Bonjour mes frères et sœurs. Nous sommes donc sous le regard du Seigneur et nous voulons devenir meilleurs. Est-ce qu'il y a parmi nous des frères, des sœurs qui disent « Moi, je veux devenir meilleur ». Vous savez, il est écrit qu'à cause de l'iniquité, qu'est-ce qu'il est écrit à cause de l'iniquité ? L'amour du plus grand nombre diminuera ou se refroidira, alors que la parole de Dieu nous demande de faire en sorte que notre amour augmente. Regardez avec moi dans Philippiens. Et que nous le voulions ou pas, de toute façon, vous et moi, nous sommes dans ce cas de figure où notre amour augmente, où notre amour diminue. Dans Philippiens, au chapitre 1er, c'est la prière de Paul. C'est important que nous sachions où nous en sommes, parce que tout à l'heure, on va prendre la Sainte Cène, mais aussi on va terminer avec une prière. Vous êtes d'accord de répondre au Seigneur à cette prédication par une prière? Vous allez voir, je suis sûr que oui. Vous aurez besoin de faire une prière vraie, qui correspond à ce que vous avez besoin de lui dire, parce qu'on lui dit des choses, et c'est vrai qu'on le loue, on peut le louer tous les jours, Seigneur, merci, merci pour tes bienfaits, c'est clair qu'on peut passer notre vie à faire ça, on ne se trompera pas. Mais il y a quand même des prières qui correspondent à ce qu'on a besoin de lui demander. Alors votre amour, notre amour diminue-t-il? Notre amour augmente-t-il? En tous les cas, le fait qu'il augmente est la volonté de Dieu. Philippiens chapitre 1, verset 8. Car Dieu m'est témoin que je vous chéris tous avec la tendresse de Jésus-Christ. Et ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence pour le discernement des choses les meilleures, afin que vous soyez purs et irréprochables pour le jour de Christ. Amen. Ce jour merveilleux où nous serons devant lui, où nous passerons devant lui, eh bien, peut-être encore plus béni parce que nous aurons pris cette parole au sérieux. Mais c'est vrai. Est-ce que je fais partie des gens dont l'amour diminue? Ou est-ce que parce que je suis et je veux être dans la volonté de Dieu, je fais partie de ces chrétiens où l'amour augmente, dont l'amour augmente? Alors certains ont vite fait de dire « Oui, mais moi, vous savez, j'ai du mal à aimer. » Mais tout le monde a du mal à aimer. Est-il écrit dans la Bible qu'à chacun, on va le lire quand même, je tiens à ce qu'on le lise, dans 1 Corinthiens, au chapitre 12, c'est important mes frères et sœurs, parce que je suis inquiet pour les chrétiens qui disent « Oui, mais moi, j'ai été ceci, j'ai été cela, je ne sais pas aimer, on ne m'a pas appris à aimer. » J'y crois pas moi ça, ce n'est pas vrai. Parce que, j'y crois pas, vous allez comprendre pourquoi. Vous comprenez bien que si je vous dis ça, ce n'est pas une conviction, une opinion. C'est parce que Dieu dit ceci. Dans 1 Corinthiens, au chapitre 12, au verset 7, « Je m'adresse à tous ceux qui ont accepté Jésus-Christ comme Seigneur et comme Sauveur. » Il y en a ici des gens qui ont accepté Jésus-Christ comme Sauveur et comme Seigneur? Bon, il y en a une, mais c'est bien. Non mais, regardez ce que Paul dit aux Corinthiens. C'est dans l'exercice des dons spirituels. Et j'en profite parce que je sais que certains l'ont reçu, mais ils n'osent pas. Ils n'osent pas le donner. Je sais que plusieurs parmi vous ont reçu les dons et vous n'osez pas les exprimer. Je sais ce que c'est. De la même manière qu'il peut y avoir des frères qui sont appelés au ministère et qui n'osent pas l'exprimer. Parce qu'on a peur. 1 Corinthiens chapitre 12, verset 7. Or, à chacun, donc à chacun, à tous les frères, la manifestation de l'Esprit est donné pour l'utilité commune. À chacun, il y a une manifestation de l'Esprit. Nous avons tous quelque chose à donner aux autres. Regardez un peu en avant, en Romains chapitre 5, ça sera peut-être la conclusion de ma prédication, mais je pense que c'est bien que nous le lisions. Dans Romains au chapitre 5, verset 5, c'est pour ça que je vous disais que je ne crois pas quand quelqu'un dit je n'ai pas reçu, ce n'est pas vrai. Parce que lorsque quelqu'un a accepté comme Jésus, comme Sauveur et comme Seigneur, regardez ce qui est écrit. Romains chapitre 5, verset 5. Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Et vous pouvez dire amen. Vous avez, si vous avez accepté Jésus-Christ comme sauveur et comme Seigneur, vous avez reçu l'amour de Dieu dans votre esprit. Vous l'avez. Est-ce que vous le savez? Peut-être que vous l'avez tellement enfermé que vous n'arrivez pas à l'exprimer, que le diable, bien sûr, va en profiter pour vous enfermer encore plus dans cette misère. Mais nous pouvons nous aimer. Si Dieu, d'une façon ou d'une autre, dans la Bible, nous demande « Aimez-vous les uns les autres, aimez-vous les uns les autres », c'est pour ça que j'ai demandé à notre frère, M. Sinarinzi, de prendre ce chant. Si le Seigneur n'arrête pas de le dire « Aimez-vous, c'est à ceci que le monde connaîtra que vous êtes mes disciples », il est sûr d'une chose, c'est que Dieu ne nous demande pas de faire quelque chose que nous ne saurions pas faire. Nous connaissons tous 1 Corinthiens 13, texte que nous utilisons souvent lors des mariages, parce que c'est un chapitre qui n'arrête pas de nous développer l'amour et combien nous devons aimer, qu'on peut faire ceci, on peut faire cela, on pourrait même être brûlé pour Dieu, on pourrait offrir tous ses biens. Si on n'a pas l'amour, ça ne sert à rien. Vous vous rendez compte, c'est un chapitre qui vous met à carreau. Hein. Vous pouvez tout faire, tout savoir, avoir la connaissance parfaite, parler le langage des anges, tout. Si nous n'avons pas l'amour, ça sert à rien. La plus grande des choses, c'est l'amour. Rechercher l'amour, dit l'apôtre Paul, c'est un commandement. Et je crois que nous devons nous y appliquer. Chacun d'entre nous, nous sommes là sous le regard du Seigneur. Vous avez certainement prié chaque jour, ce matin certains l'ont fait, pour que Dieu dirige ce culte et fasse en sorte que nous ayons sa pensée. Eh bien, nous devons aimer. Nous devons nous aimer les uns les autres. Vous aimez votre voisin? Regardez votre voisin. Vous l'aimez? Est-ce que vous aimez votre voisin? Celui qui vous parle, celui qui est en face de vous, est-ce que vous l'aimez? Et oui, en plus que c'est, Jésus n'a pas dit, c'est à la taille de votre église, c'est la richesse de votre église, c'est à la qualité des pasteurs, des dons spirituels, que les gens sauront que vous êtes mes disciples. Jésus a dit, à ceux-ci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour, les uns pour les autres. C'est pas compliqué. Je ne sais pas ce que nous allez penser de cette prédication, mais c'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure, avec sérieux naturellement, que on pourra terminer ce moment de partage avant de prendre la Sainte Cène avec une prière. Il y a des prières, Dieu aime qu'on les fasse, parce qu'elles correspondent vraiment à quelque chose. Alors c'est sûr que parler de l'amour, qui est habilité pour parler de l'amour de Dieu? Est-ce que je suis habilité, moi, pour parler de l'amour de Dieu? Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui peut dire, moi, je peux parler de l'amour de Dieu? La seule façon, je pense, de vraiment bien parler de l'amour de Dieu, c'est de regarder au comportement de Jésus. Je pense que c'est la seule chose à faire. Parce que c'est notre modèle, le Seigneur. C'est notre modèle. Alors, cette question bête, mais qui mérite d'être posé. Compte tenu de ce que nous vivons, voulons-nous que notre amour augmente ou voulons-nous que notre amour diminue? Il n'y a pas grand-chose à faire. Hein. Vous savez, si vous voulez que votre amour diminue, vous inquiétez pas, il n'y a pas grand-chose à faire. Ça se fera tout seul. Si nous voulons que notre amour augmente, il faut continuer à apprendre. Oui, le jour où nous avons donné notre vie à Jésus-Christ, l'amour de Dieu a été répandu dans notre cœur. Gloire à Dieu. Il ne nous a pas laissés sans armes, sans possibilités. Cet amour-là peut se manifester. J'y reviens, de la même manière que les dons spirituels. Vous l'avez lu avec moi. À chacun ici peut manifester la vie de l'Esprit. Et je voudrais que vous soyez sérieux avec ça. Que vous disiez, mais moi aussi, Dieu peut m'utiliser pour exercer les dons. Oui. Eh oui. C'est sûr. Je pense que parfois, beaucoup de chrétiens sont repartis sans une parole, alors qu'ils auraient pu repartir avec une parole qui venait de Dieu. Je le crois vraiment. Vous le croyez, ça, mes frères et sœurs? Alors, cet amour, je ne sais pas où nous en sommes tous, Mais peut-être quelqu'un dit, mais moi j'ai besoin de cet amour. J'ai besoin tout à nouveau de cet amour. Parce que je sais que ma vie sera utile si j'aime. Il y a des gens qui disent, mais moi j'aime pas. Vous savez quand vous entendez un chrétien qui vous dit, mais moi j'aime pas ma famille. Ça fait mal au cœur quand même. Hein? Un chrétien, on l'entend ça, de plus en plus. Alors l'Église de Jésus-Christ doit être remplie de l'amour du Seigneur. L'Église du Seigneur doit être remplie de douceur, de fermeté, d'ordre. Vous voyez, on peut prendre l'amour de Dieu et paf, tout d'un coup, on peut parler sur la façon dont Jésus est entré dans le temple, qui s'est confectionné un fouet pour chasser tout ce qui était désordre, etc. Oui, tout ça doit être inclus dans l'équilibre. Mais Jésus a manifesté l'amour. Il a manifesté l'amour. D'ailleurs, quand Philippe s'interrogeait, montre-nous le Père, vous savez, quand il a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie », il a dit « Mais comment on fait pour aller de la terre au ciel ?» C'était des bonnes questions, ça. Enfin, je le dis en français courant. « Mais comment on fait pour aller d'ici-bas, là-haut » Et Jésus dit à Philippe « Mais ça fait tellement longtemps que tu es avec moi, et tu ne m'as pas connu. Celui qui m'a vu, a vu le Père. » C'était quelque chose d'extraordinaire. « Celui qui m'a vu, a vu le Père. » Heureusement qu'il est écrit, heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Mais quand même, je crois que c'était bien de le voir, vous ne croyez pas hein? De le voir. Jésus sait comment agir avec vous. Nous, des fois, nous ne savons même pas comment il faut faire par rapport à nos propres enfants. C'est pas vrai? On ne sait même pas comment il faut faire par rapport à quelqu'un que l'on connaît bien, que l'on croit connaître bien. On ne sait même pas comment faire. Et nous avons dans la parole de Dieu des exemples extraordinaires de la façon dont Jésus s'y est pris pour amener quelqu'un à la grâce, au pardon, à la bénédiction, car autour de nous, il y a tout un tas de gens, on ne sait pas, vous pensiez, vous, que vous vous convertiriez un jour, sérieusement? Si on vous avait dit, tu prendras le baptême un jour à l'église Sainte-Agne, ou ailleurs. Mais comment atteindre les gens autour de nous? Les gens qui sont là, qui, demain peut-être au travail, quelqu'un d'acide, comme on dit, de pénible. Est-ce que Dieu peut le sauver? Oui, il le fera si nous l'aimons. Alors j'aimerais qu'on fasse une lecture, qu'on la fasse, mais avec cœur vraiment. Qu'on se l'imagine. Moi j'ai demandé au Seigneur que dans le ciel j'ai un petit homme, vous savez c'est ce homme vidéo là, pour voir tous les textes de la Bible en vidéo. Je vais demander, entre parenthèses. Alors dans l'évangile de Jean au chapitre 8, il y a une histoire qui va nous aider. Je le répète à formuler cette prière tout à l'heure. Car j'ai la conviction que le Seigneur va exaucer des gens ce matin, qui feront cette prière qui correspond. Dans l'évangile de Jean au chapitre 8, il y a une situation extraordinaire que Dieu a voulu que nous ayons la consignée dans le livre. Dans le Saint-Livre, Jean chapitre 8, verset 1er. Jésus se rendit à la montagne des Oliviers. Mais dès le matin, il alla de nouveau dans le temple, et tout le peuple vint à lui. S'étant assis, il les enseignait. Alors les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère. Et la plaçant au milieu du peuple, ils dirent à Jésus, « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu ? » Il disait cela pour l'éprouver, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus, s'étant baissé, écrivait avec le doigt sur la terre. Comme il continuait à l'interroger, il se releva et leur dit, « Que celui de vous qui est sans péché, jette le premier la pierre contre elle. » Et s'étant baissé de nouveau, il écrivait sur la terre. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent, un à un, depuis les plus âgés jusqu'au dernier. Et Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. J'ai presque envie d'ajouter tremblante. Alors s'étant relevé et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit, « Femme, où sont ceux qui t'accusaient ? Personne ne t'a-t-il condamné ?» Elle répondit, « Non, Seigneur. » Et Jésus lui dit, je ne te condamne pas non plus, va et ne pêche pas. Oui, je pense que vous pouvez le dire, franchement. Amen. Quelle histoire.
Moi, ça fait 3 jours que je suis sur cette histoire.
3 jours que je suis bloqué sur cette histoire, parce que je crois que ce matin, Dieu voulait que je vous parle de l'amour du Père. C'est pour ça qu'on a chanté ce chant. Son amour, sa patience. Jésus, il est là, à un moment donné, seul avec cette femme. Vous avez lu comme moi la loi de Moïse, compte tenu de tout ce qui s'était passé, ordonnait, je répète, que cette femme soit lapidée, une femme adultère, une femme qui trompait son mari. Et ce que je voudrais que nous comprenions ce matin, c'est la façon dont le Seigneur Jésus a abordé cette femme qui était là, à 2 doigts de mourir, d'être tuée par ces hommes qui utilisaient la loi pour arriver à leur fin. Où sont ceux qui t'accusent? Où sont ceux qui t'accusaient? Vous avez vu comment le Seigneur s'y est pris? Vous la connaissez cette histoire? Vous l'avez lue? Je ne sais pas si on la connaît si bien que ça. Cette femme, est-ce qu'elle connaissait la loi? Oui, elle connaissait la loi, elle savait très bien ce qu'elle faisait. Et elle vivait dans le péché. Ce sont des choses qui sont là dans la parole de Dieu. Cette femme, elle représente notre humanité. Elle nous représente un peu à nous aussi, dans le péché parfois, ou avant d'être chrétien. Et tout d'un coup, cette femme-là qui est en train de vivre quelque chose de terrible, elle sait qu'elle va mourir. Elle le sait. Nous, on est là, on connaît la fin, tout ça. C'est comme quand on lit la résurrection de Lazare, on sait qu'il va ressusciter, donc toute l'histoire, on la zappe un peu. Cette femme, elle va mourir. Elle sait qu'elle va mourir. Et tout d'un coup, elle se retrouve devant Jésus-Christ, devant l'amour incarné. C'est une histoire extraordinaire. Je ne sais pas si vous vous rendez compte l'opposition qu'il y a entre, d'un côté, la grâce, l'amour incarné qui arrive, ou qui est là, et la religion qui se présente pour abîmer encore plus les gens. Personne ne t'a-t-il condamné? Alors que je peux vous dire que c'était moins une. Non, Seigneur, je ne sais pas quelle voix elle a utilisée. Je ne sais pas comment elle est. Je pense qu'elle tremblait. Je le pense. J'aurais aimé voir cette histoire. Je vous assure, j'aurais aimé la voir. Je ne sais pas comment cette femme est rentrée chez elle. Je ne sais pas comment elle est repartie. Mais je pense qu'elle a été confrontée à l'amour de Dieu. Et à des moments, je ne sais pas où vous en êtes, je ne sais pas, il n'y a que Dieu qui sait, parce que même nous, on ne le sait pas trop où on en est. Mais cette femme avait besoin d'être confrontée à l'amour de Dieu. À des moments, elle a besoin d'être confrontée à la sévérité de Dieu. Vous êtes d'accord? À des moments, c'est très très important. Mais à des moments, on a besoin d'être confronté à l'amour de Jésus-Christ. C'est important. Alors c'est vrai que ce texte a été employé de mille et une façons. Quand Jésus a dit à cette femme, « Je ne te condamne pas non plus. » C'est une parole extraordinaire. Que chacun d'entre nous pouvons saisir ce matin par rapport à tout ce que nous aurions pu faire dans le passé. Ça a été fait, je sais. Mais quelle parole! Quelle parole merveilleuse! Que celui de vous qui est sans péché, alors c'est sûr que tous ils étaient des pécheurs, mais Jésus lui, si vous le voulez, j'espère que vous allez comprendre ce que je vais vous dire, lui il était sans péché, oui ou non? Il était sans péché. Donc, cela veut dire que lui aurait pu dire aux pharisiens, amenez-moi les cailloux, amenez-moi-les. Moi, je peux la lapider. Oui ou non? Ben oui. Est-ce que c'est écrit qu'il était sans péché? Et je voudrais que nous comprenions bien l'attitude du Seigneur. Lui, c'est sûr, il pouvait, et personne n'aurait eu rien à dire, à part les pharisiens qui auraient continué à le critiquer parce que lui s'autorisait ceci, cela, parce qu'il ne le connaissait pas. Et le problème, il est là. Comme je le disais mardi, quand Jean-Baptiste, parlant de Jésus, dit « Mais il y a quelqu'un au milieu de vous que vous ne connaissez pas. » Et laissez-moi vous dire que bien des drames, des difficultés sont le résultat de ce que, même si nous savons que Jésus est au milieu de nous, parce qu'il le dit, donc on ne va pas remettre en question cette parole, nous ne le connaissons pas comme nous devrions le connaître. Il aurait pu parler différemment à cette femme. Vous avez vu qu'il a été très sobre, comme c'est souvent le cas. Il aurait pu dire, tu vois, ce sont tes péchés. Et les péchés des pharisiens. Parce que quand on voit comment Dieu parle aux pharisiens et aux scribes plus loin ou avant, c'est où c'est Jean 8. Après, laissez-moi vous dire que Jésus aurait pu dire, mais c'est à cause de gens comme toi. Et comme eux. Que je suis venu. Parce que pour qui il est venu le Seigneur en fait? Et pour nous pauvres pécheurs. Oui ou non? Je ne sais pas si vous vous rendez compte, il aurait pu dire, mais qu'est-ce que c'est cette affaire? Moi je peux te lapider, moi je peux le faire. Alors quand Jésus dit à cette femme, je ne te condamne pas non plus, ça ne veut pas dire que le Seigneur passe sur le péché et que le péché, ce n'est pas grave, parce qu'on a utilisé ce texte. C'est pour ça qu'il faut faire attention à ce que vous entendez dans les églises. On a utilisé ce texte, d'ailleurs il y a des églises qui, en boucle, utilisent ce texte pour expliquer dans leur doctrine que le péché, ce n'est pas si grave que ça, puisque Jésus a dit, je ne te condamne pas non plus. C'était grave le péché, c'est toujours grave le péché. Parce que si Jésus a pu dire cette parole d'amour à cette femme, n'oubliez pas que c'est quand même son péché, notre péché, qui a amené Jésus sur le bois de la croix. Et que nous ne devons pas mélanger les choses. La tendresse, l'amour de Dieu, et le fait que notre péché l'a conduit au calvaire. Est-ce que vous êtes heureux que Jésus ait été jusqu'au calvaire? Le péché, c'est toujours grave. Que personne n'utilise ce texte pour dire, mais voyez, monsieur Gosset, Jésus, là, ça n'a pas l'air compliqué quand même, je ne te condamne pas non plus. Hein? Non, ce n'est pas comme ça que ça marche. Le salaire du péché, c'est la mort. Et le péché a conduit Jésus au calvaire. Il aurait pu lui dire, mais en toute objectivité, avec vérité. Mais tu ne te rends pas compte. Tu ne te rends pas compte, pauvre femme. Il aurait pu la mépriser quand même, c'était grave ce qu'elle avait fait. Tu ne te rends pas compte. Et le gars avec qui t'étais, pourquoi ils ne l'ont pas mené au fait? Et il aurait pu dire, mais qu'est-ce que le bande d'hypocrites? Pourquoi? Parce que si elle a été prise en flagrant délit d'adultère, c'est que le gars, il était là. Et il était à la même enseigne qu'elle. Oui ou non? Et il aurait pu leur faire un sermon, je peux vous assurer, sérieux. Vraiment, il aurait pu le faire. Si je suis là, c'est à cause de toi. Tu ne te rends pas compte? Pauvre femme! C'est à cause de gens comme toi que je suis venu, que j'ai quitté le ciel pour mourir à ta place, pour mourir sur la croix. C'est ta faute. Et tu connais la loi. Tu la connais bien. Je ne te lapide pas, mais sache que tu le mériterais bien. Est-ce que Jésus aurait pu lui parler comme ça? Oui. Tu devrais avoir honte, pauvre femme. Mes frères et sœurs, vous savez, je sais qu'on sera de plus en plus confrontés au péché des gens. Et il ne faut pas s'extraire il faut être. Jésus était séparé du péché, et en même temps il est dit dans l'hébreu que c'était l'ami des pécheurs. Vous voyez, cet équilibre à avoir entre le fait de se séparer du péché et en même temps aimer les pécheurs. Parce qu'au nom de la sainteté, ne commencez pas à dire « Ah, moi, je veux aucun contact avec les gens du monde. » Et justement, si vous travaillez avec des gens pervers, corrompus, adultères, ne commencez pas à les lapider. C'est vrai qu'on aurait tendance, des fois, à être un peu sévère. Moi, je vous assure que Dieu m'a parlé par cette affaire. Comment on réagit devant le péché des autres, le péché parfois même de ce qui peut se passer dans nos familles? Comment on appréhende les gens, les faiblesses des gens? Est-ce qu'il y a des versets pour par rapport aux gens? Il y a des chrétiens, ils sont toujours faibles. Moi, au début de mon ministère, ça me fatiguait, ça. Il y a des chrétiens, ils sont toujours faibles. Et la Bible dit que nous devons supporter les faiblesses de ceux qui sont faibles. Nous devons les supporter, c'est-à-dire les porter. C'est pas facile, c'est pas facile. Mais comment accepter, aider? Parce qu'on est là pour que notre amour augmente. Vous êtes d'accord avec l'introduction? Que notre amour augmente. Parce que vous savez, on l'entend. Ah ben moi, je me suis fait pigeonner plusieurs fois en aidant des gens qui avaient de l'argent, peut-être plus que moi, je leur ai filé de l'argent. Ben c'est fini, j'ai de plus personne. Je ne pense pas qu'on est dans la volonté de Dieu, là, l'amour qui augmente. On s'est fait pigeonner plusieurs fois, et alors? C'est le problème des gens. Mais comment vraiment aider? Parce que là, on est là, cette histoire, elle n'est pas là pour qu'on mette en opposition la femme adulte, l'amour de Jésus et l'hypocrisie des pharisiens. Cette histoire, elle est là pour qu'on dise, mais comment je peux aimer davantage? Comment je peux m'y prendre davantage? C'est sûr que c'est extraordinaire que cette femme, j'essaie de l'imaginer, je l'ai vue toute la semaine, elle hantait mes nuits. Elle devait être là, cette pauvre femme, à moitié accroupie, tremblante. Elle a dû rentrer chez elle. Mais qui c'est ce gars? Qui c'est cet homme? Je ne sais pas ce qui s'est passé. Ça m'étonnerait qu'elle faisait... Je me disais, mais elle ne devait pas faire... Ce n'est pas possible. Elle ne faisait pas partie de tous ceux qui ont dit crucifie-le, crucifie-le. Parce que vous savez qu'il y a une foule énorme qui ont connu Jésus, qui se sont laissés monter la tête et qui ont dit crucifie, crucifie. J'ai dit, ce n'est pas possible. Elle ne pouvait pas être parmi eux. C'est pas possible, pas elle, c'est pas possible. Je sais pas ce qu'elle a pensé, je sais pas comment son cœur battait, je sais pas, mais ce matin je sais que Dieu veut nous parler au travers de cette histoire. Vous croyez que Dieu peut vous parler au travers de cette histoire? Pour que votre amour, notre amour, si je dis votre ou notre, vous inquiétez pas. Elle qui pensait qu'elle allait mourir, Jésus n'a pas beaucoup parlé non plus aux pharisiens. Il leur a parlé parce qu'ils ont continué à l'accuser. Vous avez remarqué qu'il a écrit par terre. J'en ai parlé le jour des baptêmes. Quand on lit dans Jérémie un texte où il est dit que ceux qui abandonnent Dieu seront inscrits sur la terre, je vous avoue que c'était sévère ce que le Seigneur a fait ce moment-là. Ceux qui abandonnent Dieu seront inscrits sur la terre. Ça veut dire... Par déduction, qu'ils ne seront pas inscrits dans les cieux. Malheur à ces gens-là. Et pourtant, je peux vous dire, c'était la religion la plus pointue à l'époque. Il a écrit par terre. Je pense que certains ont dû comprendre. Certains ont dû comprendre. Mais notre dilemme à nous, nous sommes chrétiens et nous sommes en droit de nous poser la question, mais Seigneur, mais apprends-moi moi aussi. Même s'il doit y avoir de l'ordre dans l'église, et croyez-moi que ça, je suis archi pour. Mais ça n'empêche que nous devons demander à Dieu de l'amour pour aider, pour corriger, pour régler les problèmes. Même si cela demande de la fermeté, on peut quand même le faire avec beaucoup d'amour. On peut dire, Seigneur, mais enseigne-moi à aimer. Est-ce que c'est une prière qu'on peut faire, ça? Seigneur, enseigne-moi à aimer. Il y a des gens qui n'aiment pas. Dans l'église, il y a des gens qui ont fait du mal terrible. Ils sont d'une dureté, d'une froideur, d'une rigueur. Et quand ils prient, ils sont capables de vous faire pleurer les chaises. Mais 5 minutes après, ils sont capables de vous faire du mal. Ne riez pas, parce que c'est vrai. Et si on est vraiment des enfants de Dieu, si vraiment on a compris que l'amour de Dieu a été répandu, parce que ce n'est pas des blagues, ça. Vous avez... dans votre esprit, l'amour de Jésus. Alléluia. Donc, nous pouvons aimer et faire des progrès dans l'amour si vous faites partie de ces gens qui se laissent aspirer par la mentalité du monde que l'iniquité fera, que l'amour refroidira, diminuera. C'est parce que c'est un choix. Mais ce matin, confronté à ce texte, on doit pouvoir dire, moi je veux aimer davantage. Déjà dans ma maison, aimer davantage. Au fait, comment j'aime dans ma maison? C'est quand même une question qu'on peut se poser, ça. Comment j'aime ma femme. Les maris qui sont là, vous pouvez répondre. Enfin, ne répondez pas.
On te voit de grâce.
Les épouses, vous qui êtes ici, vous pouvez certainement entendre cette question, comment tu aimes ton mari, comment tu l'aimes. Les enfants, les ados qui êtes ici, comment vous aimez vos parents? Et vous qui êtes adultes, qui avez encore vos parents, comment vous les aimez, etc. Il y a des gens qui souffrent, qui n'osent plus parler. Moi, je n'ose même pas parler à mon père. Je n'ose même pas parler à mon mari. Je ne dis plus rien. Dès que je lui ouvre mon cœur, il me gronde. Ça peut arriver, ça, dans des foyers chrétiens? C'est terrible. Quand vous entendez une femme qui dit « Mais moi, je ne peux plus rien dire à mon mari. » Ou l'inverse. Ou l'inverse. Et les gens s'enferment dans la tristesse, dans la solitude, ça ne s'arrange rien. Et l'amour de Dieu n'est pas manifesté. Alors qu'on a lu que chacun peut manifester l'amour du Seigneur. Vous êtes d'accord? On peut tous le manifester. Si vous dites que vous ne pouvez pas le manifester, c'est que vous n'êtes pas converti. Ça, c'est clair et net. Je vous le dis, Franco de Port, si vous dites « Ah, moi non, je ne peux pas, mais je peux pas aimer, c'est pas vrai », eh bien, vous n'êtes pas converti. Vous n'avez jamais reçu Jésus dans votre cœur. C'est sûr et certain. Il y a même des païens dans la Bible. Je pense aux centeniers, hommes officiers de l'armée romaine, formés, parce que si vous avez été engagé dans une... Moi, j'étais engagé dans une armée de combat. Et je peux vous dire qu'on vous apprend à tuer quand vous faites l'armée, dans une compagnie de combat. Et cet homme, c'était un officier centenier, c'était un homme qui avait appris à tuer. Eh bien, lui, il avait décidé d'aimer. Un païen qui n'était pas encore sauvé. Alors, laissez-moi vous dire que ne soyons pas aveuglés par le diable au point de pouvoir dire « Ah, mais moi, je ne peux pas aimer, si vous savez ce que j'ai vécu. Moi, j'ai vécu ceci, moi, mon mari m'a trompé, j'ai vécu un divorce, j'ai vécu ceci, j'ai vécu cela, mon père m'a frappé, j'ai été violé. » Oui, je sais. Je sais que tout ça, c'est grave. Mais je crois que l'amour de Dieu est plus grand que tout. Est plus grand que tout. Alors, je ne sais pas, ce matin, il y a des hommes, il y a des maris, il y a des épouses, il y a des enfants. Et il y a des gens qui m'écouteront et qui entendront ce CD, qui diront, mais oui, c'est pour moi, cette affaire, cette prédication. Quand on voit combien... Ça se projette de plus en plus dans les églises où des femmes disent non, moi je dis rien. Moi j'ai entendu ça. Moi mon mari sait rien. Qu'est-ce qu'il en pense votre mari? Ah mon mari je ne lui dis rien. C'est comme ça depuis des années, on ne se dit pas les problèmes. Moi je trouve que c'est dommage quand même dans une église. Vous ne croyez pas dans une église? Quand même. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Puisqu'on est tous capables de manifester cet amour, on doit tous faire une prière. Bien sûr que ça peut peut-être, et ça doit peut-être recommencer, ou commencer par une vraie repentance. Parce que ce texte ne dit pas, le péché c'est pas grave. Ce texte dit, je ne te condamne pas, va et ne pêche plus. Ça sous-entend qu'il y a une repentance. C'est obligé, vous pouvez le calculer comme vous voulez. Écoutez, j'espère que vous me croyez. Ça sous-entend que si cette femme a entendu « va et ne pêche plus », cette parole, elle a dû tourner en boucle toute sa vie dans le cœur de cette femme, j'en suis convaincu. Ça nécessite une repentance. Et peut-être que c'est la prière que vous et moi devrons peut-être faire à Dieu. Peut-être que non, ce n'est pas celle-là. Mais c'est peut-être la bénédiction qui viendra, parce que la repentance, c'est une bénédiction de se repentir. Vous interprétez la repentance comme une bénédiction ou comme une malédiction? Ben, c'est une bénédiction, la repentance. C'est de ne pas se repentir que c'est une malédiction. Le fils prodigue, lui, il en avait marre de patauger avec ses cochons. Et il a dit, je me lèverai. Et j'irai voir mon père. Et je lui dirai, j'ai péché contre le ciel, contre toi. Est-ce que ça vaut la peine des fois de se repentir? Eh ouais. C'est comme ça qu'on retrouve l'amour du Père. Et Dieu attendait le Père. Vous savez, des fois on nous critique, on nous dit, ça tient debout. On nous critique, on dit, oui, mais les chrétiens, vous devriez aller les chercher parce que le berger va chercher les brebis perdues. Le fils prodigue, le Père n'a pas été le chercher. Il devait revenir. Et je pense qu'il faut faire la différence entre des brebis perdues qu'il faut aller chercher et les chrétiens rétrogrades, même si le mot ne vous plaît pas, les fils prodigues, qui, eux, doivent faire d'abord une démarche pour revenir dans les bras du Père, qui les attend de toute façon. Et je crois que, vous savez, toutes ces choses, elles sont là, dans la parole, elles sont sérieuses. Et si vous les méditez, Dieu vous parlera de la même manière qu'il me parle à moi. Alors, je dois me repentir peut-être de mon manque d'amour. Oh, j'aime, je prie pour les gens du Niger, j'aime l'œuvre de M. Bordeneuve, je suis à fond dans la mission de M. Bordeneuve, moi j'aime les Chinois, bien sûr, ils sont à 10 000 kilomètres. Je donne pour la mission, c'est bien. Mais moi je ne te parle pas des Chinois que tu verras jamais. Je te parle de ta femme, de tes enfants, de tes parents. Comment manifester cet amour? Comment j'aime en réalité? Parce que c'est peut-être par là que ça doit commencer. Comment j'aime ma femme? Je parle de ma femme souvent, puisque je parle au mari, parce que je suis un homme. Mais c'est valable dans les deux sens. Comment j'aime mon conjoint? Comment je l'aime? Comment ça se traduit? Parce que c'est bien joli en théorie. Ah, mais si, moi j'aime tout le monde. Moi je suis, qu'on appelle ça là, ces hommes? Il y a un mot pour ça. Comment? Non, c'est pas grave. Philanthrope. Voilà, moi je suis philanthrope, j'aime tout le monde. C'est bien. Mais commençons par le début. Est-ce que je crois, est-ce que vous croyez, que l'amour de Jésus a été répandu dans votre esprit? Ah bon, si vous le croyez, vous pouvez faire une prière qui va changer votre foyer, tout à l'heure. Cet amour de l'autre, même si, je répète, il doit y avoir cette fermeté que le péché, c'est grave, que le péché, c'est sérieux. Le pain et la Sainte-Seine, ce n'est pas nous qui l'avons institué, c'est Jésus qui l'a institué. Pour que chaque fois, on se dise quand même, c'est une affaire sérieuse. Même si Jésus a été plein de tendresse et ne l'a pas dit, comme je l'ai dit tout à l'heure, moi je me suis fait le film, parce que je pense que c'était important que nous comprenions que Jésus aurait pu le dire, il aurait vraiment pu le dire, mais son amour est tellement grand qu'il ne l'a pas dit. L'amour de l'autre, cette tendresse, comment je dois aimer? Comment un homme doit aimer sa femme? Mes frères, on est sous le regard de Dieu, on ne va pas tourner en rond. Comment j'aime ma femme? Épouse, comment vous aimez votre mari? Comment Jésus aime l'Église? Vous avez vu dans la Bible comment Jésus aime l'Église? Vous l'avez vu? Qu'est-ce qu'il a fait, Jésus? Il a donné sa vie. Alors comment je veux aimer? Parce que je suis sûr que le diable, il sait ce qu'il faut faire pour que nos prières ne soient pas exaucées. Il le sait. Est-ce qu'on prive les autres de notre amour? Vous savez, moi j'ai tellement entendu de choses de la part de chrétiens que je me dis, Seigneur, je sais que tu veux changer ces choses. Oui, nous sommes ses enfants. Je veux agir avec amour. Je veux réapprendre à agir avec amour. Le Seigneur, il aurait pu nous écraser. Oui, franchement, cette femme, il aurait pu. Même si elle n'était pas lapidée, il aurait pu, entre guillemets, la tuer avec la langue. Oui ou non? Il n'y en a pas qui ont essayé de le faire avec Jérémie? Tuons-le avec la langue. Vous savez, vous pouvez faire un mal fou avec la langue. Sans toucher une personne, vous pouvez la descendre. Celui qui n'aime pas, qu'est-ce qui est écrit? Celui qui n'aime pas, oui, c'est écrit aussi. Celui qui n'aime pas est un meurtrier. Alors, cet amour, il faut qu'il augmente. Alors, on pourrait lire un texte dans Philippiens. On a lu tout à l'heure dans Philippiens, mais je le réservais pour cette partie de la prédication. Parce qu'il nous rappelle, Philippiens chapitre 2, qu'il y a des choses à saisir, à ressaisir, à redécouvrir. On en parlait hier avec mon épouse, un verre, vous savez, le verre moitié plein, le voir moitié plein ou moitié vide, vous voyez? C'est important. Philippiens chapitre 2, verset 1er. Si donc, il y a quelque consolation en Christ. Tiens donc, vous croyez-vous qu'il y a des consolations dans le Seigneur? Il y a quelqu'un qui croit ce matin que Dieu peut le consoler? S'il y a quelque soulagement, tiens, soulager quelqu'un. Il n'y a pas que les kinés qui soulagent. Il y a aussi l'affection qui soulage. S'il y a quelque communion d'esprit, Tiens donc, la communion fraternelle. C'est pas beau la communion fraternelle ? Vous savez que ce matin, on pourrait être seul dans un village, vous auriez pu être muté dans la Lozère, là-bas où vous êtes tous. Est-ce que vous savez qu'il peut y avoir une communion d'esprit entre nous ? J'espère qu'on l'aura tout à l'heure et Dieu veut qu'on l'ait. S'il y a quelque compassion, quelque miséricorde, rendez ma joie parfaite, en ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. Alors ça n'a rien à voir avec la personnalité, chacun a sa personnalité, c'est une question de caractère spirituel. Ne faites rien par esprit de parti, par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, existant en forme de Dieu. Il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme une proie arrachée, mais il s'est dépouillé lui-même, en prenant une forme de serviteur. Vous savez, il aurait pu naître dans un palais, le Seigneur. Est-ce que Jésus aurait pu naître dans un palais doré ? Vous avez vu où il est né ? Vous avez vu ce qu'il a fait ? Charpentier. Il faisait des charpentes, des meubles. Jusqu'à 30 ans, personne ne connaissait. Il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Il a paru comme un vrai homme. Il s'est humilié lui-même. Il ne s'est pas qu'humilié. Se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Voilà comment ça se terminera. Mes frères et sœurs, Jésus, il est venu, c'était déjà beaucoup, il s'est abaissé, il s'est humilié, il a été obéissant jusqu'à la mort de la croix. Tout ça par amour. Alors, qu'est-ce que je suis capable, moi, de faire pour mon épouse ? Qu'est-ce que tu es capable de faire pour ton mari ? Qu'est-ce que tu es capable de faire pour tes enfants ? M'abaisser, mais vous rigolez. M'abaisser, moi, laver les carreaux, vous. Mais moi, je suis le mari. Je suis le chef du foyer. Vous me voyez, moi, laver les carreaux ? Avec mon Ajax vitre à la main ? Mes frères, sérieusement, j'ai entendu des trucs, du machisme, il y en a. D'ailleurs, quand ils ont amené que la femme, moi je peux vous dire que le machisme, ça a toujours existé. C'est quand même honteux qu'ils aient amené que la femme. Vous ne trouvez pas ? C'est lamentable, lamentable. Mais vous avez vu ce qui se passe lorsqu'on s'abaisse ? Qu'est-ce qu'il a dit le Seigneur ? Que celui qui s'abaisse, il sera élevé. Alors on ne va pas faire les choses pour être élevé. Mais il y a des hommes ici qui ont honte de laver les carreaux à la maison. Vous croyez que vous allez en perdre votre autorité de mari ? Le Créateur des cieux et de la terre, il a lavé les pieds. Non mais je ne sais pas si on le réalise. Il a pris la forme d'un esclave pour laver les pieds. Bon, qu'il avait les pieds à Jean, à Nathanaël, tout ça, moi, ça me va bien. Mais qu'il avait les pieds à Judas. Et je ne sais pas si on a compris vraiment que notre modèle, c'est le Seigneur. Nous voulons que nos prières soient exaucées. Vous voulez que vos prières soient exaucées ? Lisons un dernier texte. Je voudrais que vous reteniez que ça de la prédication, ce qu'on va lire. Si vous devez retenir quelque chose, ou si vous pouvez retenir un peu plus, c'est mieux. Mais si vous retenez ça, regardez 1 Pierre, chapitre 3, verset 7. Je voudrais que vous lisiez bien avec moi ce texte. Que vous considériez vraiment ce qui est écrit. Il y a tout un tas d'instructions par rapport aux femmes. Et là, nous lisons l'instruction par rapport au mari, mais c'est valable dans les deux sens, cette affaire de soumission, d'obéissance, d'aide, etc. 1 Pierre, chapitre 3, verset 7. « Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec votre femme, comme avec un sexe plus faible. » Alors, un sexe plus faible, ça ne veut pas dire que la femme est inférieure à l'homme, ou qu'elle est moins forte psychiquement, intellectuellement ou spirituellement que l'homme, et physiquement, peut-être physiquement sur la résistance directe. Parce que je sais que l'espérance de vie est plus grande chez les femmes que chez les hommes. 8 ans de plus. Donc vous voyez, même au niveau physique, les femmes sont peut-être plus résistantes que les hommes. Donc mais tout ça pour dire que ce n'est pas physique. Honorez-la. Je le relis. Qu'est-ce que Dieu demande aux femmes ? Aux maris, mais c'est valable pour les hommes, pour les femmes aussi. Honorez-la comme devant aussi hériter avec vous de la grâce de la vie. Et relisez la suite avec moi. Qu'il en soit ainsi, afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Vous savez, le diable, il le connaît ce verset. Est-ce qu'il connaît la Bible, le diable ? Vous avez vu comment il a cité à Jésus les textes ? Alors, on va terminer avec cette parole. Honorer sa femme. Bon, en public, c'est facile. Est-ce que c'est facile d'honorer sa femme en public ? Elle est où la mienne ? Ouais. Chérie, je t'aime. Oh, monsieur Coup, devant toute l'assemblée, il a dit à sa femme qu'il aimait. C'est ça, honorer sa femme en public ? On peut honorer sa femme devant les autres et ne pas l'honorer à la maison. Oui ou non ? Quand je lis « Honorer votre femme », je pense que c'est bien de l'honorer en public, et c'est vrai que je t'aime. Mais je pense qu'honorer sa femme, c'est quelque chose de sérieux. Honorer son mari, c'est quoi pour vous honorer ? Si on avait un dictionnaire, qu'est-ce qui serait écrit dans le dictionnaire ? Il y en a qui l'ont là, avec leur iPad. Quand on honore quelqu'un, c'est quoi ? C'est quoi honorer quelqu'un ? Comment ? Voilà, c'est-à-dire que quand on dit « Tiens, cette personne, elle a de la valeur à mes yeux. Cette personne, elle est importante pour moi. » Il est dit un peu plus haut « Honorer tout le monde, honorer le roi. » Donc, on honore quelqu'un qui a de la valeur. Est-ce que votre femme ou votre mari ont de la valeur à vos yeux ? Ou vos enfants, vos parents, votre pasteur. Est-ce que c'est écrit d'honorer les serviteurs de Dieu ? Je ne dis pas ça pour moi, ne vous inquiétez pas, je ne souffre pas de ça. Mais je le dis parce qu'il y a des chrétiens qui parlent très mal de leur pasteur. Et comme je viens de le dire, le diable, il connaît le texte. Et je peux vous dire que s'il peut faire en sorte qu'on n'honore pas son conjoint pour que nos prières ne soient pas exaucées, parce que je pense que c'est peut-être le premier problème dans un couple, de ne pas honorer son conjoint. Alors je vous pose une question, est-ce que votre femme a de la valeur à vos yeux ? Est-ce que votre mari a de la valeur à vos yeux ? Ou est-ce que vous dites, oh mon mari, là, je me le traîne ? Ne riez pas. Parce que vos prières ne seront pas exaucées. Ce n'est pas la peine que vous priez, à part pour dire pardon. Pardon, pardon. Là, Dieu vous exaucera, je le sais. Parce qu'il est bon, notre Seigneur. Mais ça serait dommage que l'on continue à s'imaginer que Dieu va nous exaucer si on n'est pas capable d'honorer son conjoint. Honorez-la. Nous devons, dans l'Église, aimer notre femme. Vous savez, il y a une sœur qui disait, il y a quelque temps de ça, il y a un an ou deux, elle disait ça à ma femme. J'essaie de rentrer le plus tard à la maison. J'essaie de rentrer le plus tard, j'ai pas envie de voir mon mari. Alors je bosse, je travaille pour pas voir mon mari. Une chrétienne ici, ça s'est passé. Moi je trouve que la maison, je sais pas vous, mais la maison, s'il y a bien un endroit où on doit être bien, c'est à la maison. Que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Si Dieu vous a donné une femme, si Dieu vous a donné un mari, il savait qui il vous fallait, oui ou non? Est-ce que Dieu sait? La Bible dit, je te ferai une aide. C'est une grâce si un homme peut dire, ma femme, elle m'aide. C'est une grâce si un mari peut dire, inversement, mon mari m'aide. Si une femme peut dire, mon mari m'aide. Oui ou non? Mais ça commence par cette attitude. Je veux l'honorer. Elle est importante pour moi, ma femme. Mes enfants, je veux qu'ils soient importants pour moi. Mes frères et sœurs, on veut le réveil. C'est bien. Mais enfin, il faudrait vraiment être aveuglé pour dire, Seigneur, réveille l'Église, réveille l'Église. Moi, j'ai entendu, il a fallu que je reprenne un frère, d'ailleurs, qui est parti de l'Église. Parce qu'il a mal parlé à sa femme. Il parle, mais vraiment, devant des gosses, ses gosses et les gosses qu'on avait invités à la maison pour faire un petit goûter avec des ados, il n'y a pas longtemps, ça, il y a un an, même pas. J'ai été obligé de le reprendre. Comment il parlait de sa femme? Moi, vous savez, franchement, j'essaie de mettre des gants. Vous savez, c'est toute la sagesse, c'est ça. Savoir quand est-ce qu'il faut parler, quand est-ce qu'il faut se taire, quand est-ce qu'il faut agir, quand est-ce qu'il ne faut pas agir, ce n'est pas toujours facile, la sagesse. Mais là, j'étais obligé. Il est parti de l'Église. Alors qu'il aurait dû dire merci. Parce que je l'ai fait par amour. Mes frères, nous voulons que nos prières soient exaucées. Oui ou non? Nous voulons avoir une église où on ne dira pas non, l'amour diminuera. Eh bien, à Saint-Agne, c'est l'inverse qui va se passer. L'amour augmentera. Point. Parce que j'ai un modèle, c'est le Seigneur Jésus. Et lui, tout en dénonçant le péché, tout en expliquant les choses comme il faut, tout en prenant au sérieux tout ce qu'on doit faire dans une église. Mais vous savez, moi, quand je préparais ce culte, ça fait 3 ou 4 jours que je suis dessus. Quand je préparais ce culte, je me disais comment tu vas aborder ce sujet. On peut aborder un texte. Vous savez, quand on est entre pasteurs, dans les pastorales, on parle de la lecture plurielle d'un texte. C'est grave, ça. C'est grave, mais plus ça s'explique. La façon dont on lit un texte, dont on explique un texte. On peut l'expliquer de plein de manières, un texte. C'est pas vrai, monsieur Olé? Hein? Mais mes frères et sœurs, je voudrais que l'on comprenne que lorsque Dieu dit qu'il a répandu son amour dans notre cœur, quand il nous dit qu'on peut aimer, quand il nous dit qu'on peut honorer son conjoint, et je le dis, même ses pasteurs, c'est vrai que c'est délicat de parler de soi, mais je le dis parce que quand vous priez pour moi, vous m'honorez. Il y en a qui prient pour moi, et bien vous m'honorez. Parce que peut-être on a un moment béni à cause de vos prières, pas parce que j'ai réfléchi sur un texte, mais parce que vous priez pour moi. C'est ça honorer. Et quand on honore le pasteur, eh bien ça bénit l'Église. Si vous êtes tout le temps en train de dire, ouais, notre pasteur, il vieillit, ouais, il débloque. On l'a entendu demander à ma femme. Cette semaine, quelqu'un nous a parlé de son pasteur. Ça nous a fait mal au cœur. Notre pasteur, il est débile. S'il y a un truc à dire, disons-le. À moi, ma femme est mère de ce Dieu. Honorez-le. Honorez-les. Honorons-nous dans l'Église. Qu'il en soit ainsi, afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Je pense. Alors, il ne faut pas le faire. Ah, ça y est, j'ai connu. Ça y est, il nous a donné un truc ce matin. On sait comment il faut faire pour que nos prières soient exaucées. Alors je vais l'honorer, je vais acheter la jacque vitre, je vais le faire, les vitres. N'honorez pas votre femme pour être exaucée. Honorez-la parce que vous voulez l'aimer. Mes frères et sœurs, Dieu aime exaucer la prière. Honorons-nous les uns les autres. On a chanté « Aimons-nous ». Mais est-ce qu'il y a de la valeur à avoir plein de frères et de sœurs? Vous vous rendez compte si on était 4 ou 5 dans l'église ce matin? Ça pourrait arriver. Il y a une sœur, d'ailleurs, elle est là. Elle me disait il y a quelques semaines, j'étais dans mon église où j'étais petite. On était 4 au culte. Et 2 et 6 avec nous. Alors, moi j'aimerais qu'on prenne la Sainte-Seine et qu'on prie dans notre cœur. Vous savez, cette femme...
Je pense qu'elle a dû prier. Vous croyez qu'elle a dû rentrer avec de la joie dans son cœur, cette femme? Franchement, le soir, quand elle s'est couchée, elle devait dire que je devrais être morte. Et à cause de Jésus, à cause de cet homme, je vis. Mais vous savez, on peut dire pareil, tout ça. On devrait tous dire « je devrais aller en enfer » et à cause de cet homme, avec un H majuscule, « je vais aller au ciel ». Alors pendant que Michael choisit des frères, on va se recueillir, s'il vous plaît. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut prier dans son cœur? Ne prions pas haute voix. Mais est-ce que vous pouvez faire une prière? Celle que Dieu attend. Vous rappelez Anne dans le temple? Qui depuis des années souffrait. Elle ne faisait que remuer les lèvres, mais je peux vous dire que Dieu l'a entendu. Peut-être il y a quelqu'un qui dit, mais moi je n'honore pas ma femme. Ma femme, je l'humilie, je la rabaisse, je la méprise. Ma femme, elle ne me parle plus. À part des autres, de la pluie, du beau temps, des infos, de Facebook. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui dit, moi je veux que mes prières soient à nouveau exaucées? Mon mari, il n'est pas encore chrétien, mais je vais l'honorer. Moi j'ai entendu une femme dire, toi tu n'es qu'un imbécile, tu n'es pas au Seigneur. Je l'ai entendu, je peux vous le dire que c'est vrai. J'ai dû lui dire des choses sévères à cette sœur. Vous vous rendez compte? Tu n'es qu'un imbécile et je suis sauf sur les mots. Mes frères et sœurs, pensez à votre père, à votre mère, si vous l'avez. Si vous avez votre femme, parce que peut-être que vous l'avez plus. Et il y a des gens qui attendent que leur conjoint soit mort pour dire « Ah, si elle était encore là ». Si elle était là encore, ma femme, je l'honorerais. Oui, mais c'est bien de dire ça. Mais si vous avez encore votre femme, si vous l'avez, peut-être elle est même là à côté de vous. C'est une grâce d'avoir sa femme dans l'église avec soi. Mais vous croyez que Dieu peut bénir votre mari, même s'il n'est pas encore chrétien? Vous croyez que Dieu peut bénir tous vos enfants? Je dis bien tous. Vous croyez que Dieu peut bénir votre pasteur? Vous croyez qu'on peut apprendre à aimer de plus en plus? Ce pain et ce vin, je voudrais que ça soit l'occasion de dire, Seigneur, que oui, tu me rappelles encore ton amour. Le péché, c'est grave. Ton amour est encore plus grand parce que ça t'a pas empêché de venir, de te rabaisser, de t'humilier et d'obéir. Eh bien, moi aussi, je veux le faire. M'abaisser pour être en bénédiction aux autres. Mais mes frères et sœurs, pensez à votre femme. Pensez à votre mari. Si vous l'avez encore, celui qui est peut-être là à côté de vous, dites : Seigneur, je la bénis. On va se lever pour prendre le pain et le vin. Je voudrais qu'on le fasse, mais vous savez, avec ce saint respect, si on doit honorer sa femme, non mais alors à combien plus forte raison on doit honorer le roi des rois? Comment on peut se lever? Bon, on peut se lever devant quelqu'un, vous savez, quelqu'un rentre dans la pièce, on lui dit bonjour, on se lève par politesse. Souvent quand je rentre dans l'église, il y a des gens pour me saluer, ils se lèvent. Vous voyez, je dis, c'est pas grave, c'est bien. Mais devant Dieu, est-ce que vous pouvez vous lever avec respect? Mais Seigneur, moi aussi, je suis comme cette femme. Les pharisiens, ils auraient pu rester, certains, et dire, mais attends, moi, ma religion, j'en veux plus. C'est toi que je veux, ta grâce. Ils auraient pu rester. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un qui dit, moi, Seigneur, je sais que tu ne me condamnes pas, mais je veux bénir et honorer les miens. Déjà, commençons dans la famille et dans l'église.